Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Accueillir les pauvres dans les entreprises, un peu de philanthropie ne suffit pas, le travail s'apprend en travaillant. Le pape l'a affirmé lors de l'audience qu'il a accordée aux entrepreneurs, dirigeants d'entreprises et banquiers du monde entier réunis dans un réseau qui vit les principes de Laudato Si. Les détails dans quelques instants dans la rubrique sur la semaine du pape. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira en Afrique du Sud, en Guinée et au Soudan, entre autres. La deuxième partie de ce journal est dédiée à l'invité du jour.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de cette émission que nous commençons avec les activités du Saint-Père dans la rubrique « La semaine du pape » présentée par Christian Lossambé.
Au terme d'une semaine intense et riche en audience, le pape a reçu en fin de matinée du samedi un groupe d'entrepreneurs, d'administrateurs des sociétés et d'entreprises, d'employés de banques venus du monde entier. Aux membres du réseau qui cherchent à vivre les principes de l'encyclique Laudato Si, la Sustainable Market Initiative, François leur a rappelé l'importance de leur propre fonction en soulignant que les grandes entreprises conditionnent le destin des gouvernements, des politiques et du développement. Le Saint-Père leur a également lancé un appel à la protection de l'environnement en anticipant l'innovation compte tenu de la lenteur des lois des États et à la protection des jeunes. Accueillez-les même s'ils n'ont pas de compétences, puisque le travail s'apprend en travaillant, leur a fait savoir le pape François. Si la journée du samedi a été plutôt calme pour le pape François, celle du vendredi a été pleine de rencontres avec sa participation au sommet du G7. Le Saint-Père s'est rendu en effet dans l'après-midi du vendredi dans les Pouilles au sud de l'Italie où il s'est exprimé lors d'une session consacrée à l'intelligence artificielle. Mais bien avant de s'y rendre, François a reçu tout d'abord une centaine d'humoristes dans la salle clémentine du palais apostolique et a ensuite reçu en audience le président de la République du Cap-Vert, M. José María Pereira Neves, en fin de matinée du vendredi avant son voyage. Pour la première fois en effet, le pape a pris la parole devant les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète, présentant sa réflexion sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'humanité. À Borgo Egnazia, dans les Pouilles au sud de l'Italie, vendredi 14 juin, le souverain pontife a appelé à ne pas condamner l'humanité à dépendre des choix des machines, en garantissant un espace de contrôle humain significatif sur l'intelligence artificielle, car, a-t-il martelé, la dignité humaine en dépend. Rappelons aussi qu'avant de retourner au Vatican, le Saint-Père a rencontré dans l'après-midi la directrice du FMI ainsi que 9 chefs d'État ou de gouvernement. Il s'agissait des présidents de l'Ukraine, de la France, du Kenya, des États-Unis, du Brésil, de la Turquie et de l'Algérie. Il a rencontré également le Premier ministre du Canada et de l'Inde. La 8e édition de la Journée mondiale des pauvres sera célébrée le 17 novembre prochain. Dans son message livré jeudi à cette occasion, le pape a exhorté chacun à se faire ami des pauvres en suivant les traces de Jésus qui, le premier, s'est montré solidaire des derniers. Pour François, la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. Il a donc invité à relever ce défi important en leur faveur. L'évêque de Rome a poursuivi mercredi 12 juin sa catéchèse sur l'Esprit Saint lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. S'arrêtant cette fois-ci sur son rôle dans la révélation, telle que les Écritures en témoignent, François a souligné la force vivifiante de cette troisième figure trinitaire à rendre les Écritures inspirées et inspirantes, car, a-t-il précisé, l'Esprit Saint rend la parole de Dieu lumineuse. Et en début de semaine, le pape François s'est rendu sur la colline du Capitole à Rome, siège de la municipalité de la ville. Quelques mois avant le jubilé de 2025, le Saint-Père a encouragé la ville de Rome et ses habitants à témoigner de l'esprit universel de Rome et à montrer un visage accueillant et hospitalier aux pèlerins, aux touristes et aux migrants.
Après la semaine du pape, l'actualité de l'Église nous conduit au Kenya. Les religieuses présentes dans ce pays viennent de lancer un forum de communication visant à améliorer la visibilité médiatique de leurs différents apostolats. le lancement du réseau des sœurs catholiques communicatrices à Nairobi le vendredi 14 juin a suivi un atelier de 2 jours qui a impliqué la formation de 10 religieuses. Le lancement de ce réseau de communication ne concerne pas seulement la technologie ou les médias. Il s'agit, selon les concernés, de créer un espace où leurs voix peuvent être entendues, où leurs histoires peuvent inspirer et où leurs efforts collectifs peuvent conduire à un changement significatif. Il s'agira, selon les religieuses concernées, à partager leur dévouement et leur amour pour la société que Dieu les a appelées à servir. Venant pour la majorité de la République démocratique du Congo, les mamans catholiques de la diaspora tiennent les 15 et 16 juin à Rome une rencontre pour rendre hommage à leur fondateur, l'ancien archevêque de Kinshasa, le cardinal Joseph Albert Malula. Dans l'entretien qu'elles ont accordé ces jours-ci à Vatican News, mesdames Janine Kapinga et Wivine Kawata, présidente et vice-présidente de ce mouvement à Rome, ont entre autres donné le programme de cette rencontre, voulant ainsi partager leur foi avec leur pays d'accueil. Madame Janine Kapinga nous donne le programme de ce colloque.
Le 15 samedi, nous allons commencer avec les conférences. Nous avons 2 conférences le matin avec une petite pause de 12h à 13h et nous reprenons jusqu'à 16h. Et le dimanche, nous allons commencer avec la messe. Mais nous commençons d'abord avec l'Angelus sous la pièce à San Pietro. Après l'Angelus, nous nous dirigeons toujours à l'église qui est au Teresianum, où le papa cardinal Ambongo Fridolin, c'est lui qui va faire la messe de clôture et d'action des grâces. Et avant le repas que nous allons partager avec tous nos invités et tous ceux-là qui seront avec nous.
Avec Madame Wivine Kawata, nous avons parlé de ce qu'elles attendent comme retombées de cette rencontre.
C'est vraiment un appel pour que les personnes viennent, surtout durant les conférences, pour comprendre qui est maman catholique. Tout enfant, toute femme baptisée au sein de l'Église catholique est maman catholique. Alors nous avons les mamans catholiques dans la chorale, dans la liturgie, dans les groupes, dans les associations, un peu partout.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été réélu par le nouveau parlement de ce pays après que son parti, le Congrès national africain, ANC, ait trouvé un accord de gouvernement avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Il a obtenu 283 voix devant l'autre candidat, Julius Malema, 44 voix. Les élections législatives fin mai ont marqué un tournant historique pour l'Afrique du Sud, mettant fin à 30 ans d'hégémonie du Congrès national africain qui a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Le futur gouvernement va graviter autour du centre entre l'ANC, qui reste majoritaire avec 159 des 400 députés, l'Alliance démocratique, 87 sièges, et le Parti national Zulu Inkatha, 17 sièges. Le MK, nouveau parti de l'ex-président Jacob Zuma, est devenu la 3e force politique avec 58 sièges. Les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, 39 sièges. L'ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne et ex-numéro 2 du pouvoir militaire en Guinée a été condamné vendredi à 5 ans de prison ferme pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes par un tribunal militaire. Le général Sadiba Koulibaly était le numéro 2 du général Mamadi Doumbouya au moment de la prise du pouvoir par les militaires en septembre 2021. Il avait été nommé chef d'état-major de l'armée, un poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2023. Chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba depuis lors, Sadiba Koulibaly avait quitté la Havane au mois de mai pour rentrer en Guinée afin, selon lui, de réclamer le paiement des salaires du personnel de l'ambassade. Il a été interpellé le 4 juin en Guinée avec 6 autres militaires, ses gardes du corps, au motif que ce déplacement n'avait pas été autorisé par sa hiérarchie et qu'il avait ainsi abandonné son poste. Des armes ont également été saisies au domicile de l'officier, selon le colonel Ali Camara, procureur militaire. Les paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide utilisent la Centrafrique comme ligne d'approvisionnement et pour recruter de nouveaux combattants, selon un rapport d'experts de l'ONU publié vendredi qui s'inquiète des retombées du conflit au Soudan. Le conflit qui a éclaté en avril 2023 au Soudan entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a eu des répercussions majeures sur la situation en République centrafricaine, note le rapport du comité d'experts mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU pour surveiller le régime des sanctions en Centrafrique. Il évoque notamment la situation humanitaire avec un afflux de milliers de réfugiés soudanais ainsi que des incursions sur le territoire centrafricain des deux parties du conflit au Soudan et des raids aériens menés par l'armée soudanaise autour du poste frontière d'Oum Dafouk. Les experts insistent sur l'utilisation de la localité appelée Oum Dafouk côté centrafricain comme plaque tournante logistique majeure. Le président kényan William Ruto a exhorté vendredi les dirigeants du G7 à soutenir une refonte du système mondial de prêts pour accroître le soutien aux pays en développement criblés de dettes. Beaucoup trop de pays sont contraints de choisir entre rembourser leurs créanciers et investir dans leur économie et leur population, a déclaré M. Ruto lors du sommet du G7 dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, et dont la session d'ouverture jeudi était consacrée à l'Afrique, au changement climatique et au développement. Il a également appelé le G7 à embrasser l'appel de l'Afrique en faveur de réformes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où le continent fait pression pour obtenir un siège permanent. Le père jésuite Eric Goé Akwe nous introduit à la méditation avec les lectures du 11e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à contempler le mystère de la croissance du règne de Dieu à travers des paraboles simples mais profondes. Jésus compare le règne de Dieu à une semence qui germe et grandit, même si nous ne savons pas comment. Cela illustre comment Dieu agit souvent de manière invisible, mais certaine dans nos vies et dans le monde, implantant sa parole dans nos cœurs, et faisant grandir en nous et autour de nous la foi, l'amour et la charité. Même si nous ne percevons pas toujours les fruits de nos efforts, nous sommes appelés à faire confiance en Dieu, qui guide cette croissance spirituelle. Nous avons aussi un rôle actif à jouer. Jésus compare le règne de Dieu à une graine de moutarde, la plus petite de toutes, qui devient la plus grande des plantes. Ainsi, nos actions, même modestes, peuvent avoir un impact profond, contribuant à la justice, à la paix et à la protection des plus vulnérables et de l'environnement. Certes, face aux nombreux défis de notre monde, nous pouvons parfois résister à cette germination du règne de Dieu par nos propres comportements ou en observant ceux des autres. Nous voyons les effets destructeurs de l'égoïsme et de l'injustice, la cupidité, l'oppression, les conflits et les violences qui rongent nos sociétés partout dans le monde. Les souffrances humaines sont palpables, qu'il s'agisse des guerres qui déchirent des vies humaines, de l'augmentation alarmante des personnes déplacées de force ou de la dégradation de notre écosystème. Ces réalités troublantes nous interpellent sur notre propre responsabilité. Quel est notre engagement pour contribuer à l'éclosion du règne de Dieu? Sommes-nous des agents de justice et de paix dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, nos pays? Jésus nous appelle à être des semeurs de justice, à planter des graines de paix et à cultiver des actions d'amour et de charité, même face aux ténèbres. En effet, malgré les ombres du monde, il y a des signes d'espoir partout. Des petites graines de justice et de réconciliation germent. Ces signes, parfois invisibles, témoignent de la présence vivante du royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à participer activement à cette croissance? Il y a tant d'hommes et de femmes qui, au nom du Christ, s'engagent pour défendre les pauvres et les opprimés. Nous sommes invités aujourd'hui à suivre leurs exemples et à réfléchir à notre propre engagement. Nous critiquons souvent les dirigeants de nos pays, les politiciens corrompus et les systèmes économiques mondiaux qui perpétuent la misère et jettent des millions de personnes sur les routes de l'exil, de la souffrance et de la mort. Mais quelle est notre part de responsabilité personnelle? Jésus nous rappelle que Dieu est patient et désire que nous participions à son œuvre d'amour, de justice et de paix. Aujourd'hui, dans notre prière, demandons la grâce de la conversion et la force intérieure pour devenir des artisans actifs du royaume de Dieu. Que notre foi nous inspire à semer des graines de bonté et à cultiver un monde plus juste et humain. Par nos actions, petites ou grandes, nous pouvons contribuer à l'épanouissement du règne de Dieu en nous et autour de nous. Amen.
Invité du jour.
La rubrique Invité du jour revient sur l'entretien accordé à Radio Vatican par M. Ambroise Anné, responsable de la chorale Saint-Luc Banabakintu d'Adjamé dans l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a pris part récemment à la 4e édition de la rencontre internationale des chœurs à Rome. Il nous parle de l'audience que le pape leur a accordée à cette occasion et les défis que la musique sacrée doit relever dans son pays. On l'écoute.
Le pape nous a parlé. Il a insisté sur l'harmonie, il a insisté sur la communion et il a insisté sur la joie. Le style idoine que l'Église recherche en musique pour faire le lien, c'est le grégorien. Après ce style-là vient ce qu'on appelle la polyphonie sacrée, qui a été développée par un certain Palestrina. Dans cette polyphonie sacrée, le mot est sorti, nous avons la polyphonie, donc nous avons de l'harmonie. C'est-à-dire plusieurs sons qui sont émis, n'est-ce pas, par des instruments, y compris la voix, par différents instruments, différentes voix et qui permettent d'avoir cette harmonie, voyez-vous. C'est un fondu. C'est cette harmonie-là qui est recherchée et que nous représentons à travers nos voix. Et le pape donc a pris cette image pour continuer à nous exhorter à entretenir cela pour la beauté de notre monde et la beauté de ce que nous représentons au sein de l'Église. Quand il a parlé de la communion, je venais de le dire, nous sommes ensemble. Et pour le rendu de la musique liturgique, nous avons besoin des autres voix. On chante avec quatre voix mixtes, etc. Eh bien, le rendu et la qualité de ce qui est produit dépend de ce que chacun produit, dépend de ce que chaque instrumentiste donne au cours de ce qui est rendu, n'est-ce pas, de la musique. Et le pape nous a pris cette image aussi pour nous demander, au sein de nos chorales, au sein de nos groupes, comme dans l'Église, mais comme dans le monde, eh bien, que nous entretenions cette communion, les uns vis-à-vis des autres, que nous montrions que nous avons besoin les uns des autres, que nous ne pourrons aboutir à un résultat qu'en étant avec les autres. C'est cela le chrétien. Et puis enfin, il y a la joie. C'est saint Augustin qui le dit. Chanter, c'est le fait de celui qui est joyeux, de celui qui est content. On ne peut pas être en train de chanter si on n'a pas la joie. Eh bien, que nous continuions donc de communiquer cette joie au peuple de Dieu. Que nous continuions d'apporter de la joie à ceux qui nous écoutent. Que nous continuions de donner de la joie. Parce que la bonne nouvelle du salut, c'est la résurrection du Christ. La résurrection du Christ doit nous donner la joie au cœur.
Aujourd'hui, quels sont les défis d'abord du chant sacré en Côte d'Ivoire et particulièrement les défis à relever à travers votre chorale?
Notre pays et notre Église, qui est fille donc de l'Église française, de la Société des Missions Africaines, qui a débarqué sur nos côtes comme il y a 130 ans, eh bien, a pendant longtemps été bercée par cette musique-là, de cette origine. Avant que, avec les indépendances et Vatican II, eh bien, nos instruments et nos langues et tout ça interviennent dans notre musique. Mais depuis une vingtaine d'années, nous avons au moins une double influence. L'influence des musiques du monde, avec donc l'avènement des radios, des réseaux sociaux et tout ça, et l'influence des musiques des églises sœurs, les églises évangéliques notamment, qui nous influencent grandement. Voici les grands défis. Résultat, eh bien, l'Eucharistie qui est unique, qui est notre marque déposée au niveau de l'Église catholique, ne retrouve pas ces marques, parce que la musique sacrée, la musique liturgique à l'Église catholique a des marques qui sont données et qui ont été consacrées par Vatican II, par le Concile de la Constitution. Eh bien, ces marques-là, nous ne les avons plus à cause de ces défis, à cause de ces influences extérieures.
Monsieur Ambroise Anné, chef de chœur de la chorale Saint-Luc Banabakintu d'Adjamé dans l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.